Radio Okapi. Okapi.
Okapi Service.
Okapi.
Bonjour et bienvenue dans Okapi Service. De la réforme du code de la famille aux lois contre les violences sexuelles, comment les droits des femmes ont-ils évolué en RDC? C'est le sujet que nous développons aujourd'hui avec Madame Caroline Norapindi, activiste engagée pour la défense et la protection des droits des femmes, présidente de l'ASBL 1000 et un espoir, MIES en sigle, et country chair de l'AIL, lutte contre les VG du club G100 qui réunit les 100 femmes les plus influentes en RDC. Madame Norapindi, bonjour.
Bonjour madame.
Vous voulez participer à cette émission, composée le 085 42 11 547, 085 42 11 547, ou nous laisser un commentaire sur notre page Facebook Okapi Service. Paul Badianyama met en onde cette émission, Esther Mamboté assure le live sur nos plateformes numériques et Benjamin Moudoumbi la réalise sous la supervision de Jean-Marc Matouaki. À la présentation, Jocelyne Moussaoupondé.
Chers auditeurs, auditrices et internautes des Radio Capi, votre radio vous donne encore une autre possibilité de suivre ces programmes. Rejoignez-nous désormais sur le bouquet Canal+, channel 951. Radio Capi, encore plus près de vous pour mieux vous servir.
Aujourd'hui, au lendemain de la Journée internationale de droits de la femme, nous nous penchons sur l'évolution des droits des femmes en RDC. Si la législation a connu des réformes majeures, de la réforme du code de la famille à l'adoption des lois contre les violences basées sur le genre, qu'en est-il de leur application concrète et de la réalité vécue par les Congolaises? Caroline Pindi Noura, vous êtes notre invitée. Rebonjour.
Bonjour madame.
La loi a évolué en RDC pour renforcer le droit des femmes, mais dans la vie quotidienne, les Congolaises ressentent-elles réellement ces progrès?
Je pense que c'est très timide. C'est très timide. Pourquoi? Parce que, d'abord, la première chose, c'est que la RDC est parmi les pays qui ont ratifié beaucoup de lois, qui votent beaucoup de lois en faveur des femmes. Mais le problème, comme je l'ai dit avant quand on discutait, le problème reste l'applicabilité. Voilà, comment appliquer ces lois-là? Est-ce que ces lois sont assez vulgarisées aussi? Parce qu'il y a ça aussi, il y a le fait que, bon, il faut vulgariser, il faut arriver jusqu'au fin fond des villages. Quel mécanisme le gouvernement met en place pour ça? Au-delà de ça, il y a les dispositions contraignantes qu'il faut qu'il y ait. Qu'est-ce qui pousserait un homme, par exemple, à ne plus battre sa femme? Il sait que la loi l'interdit, mais il n'y a aucune disposition contraire, contraignante. Donc, il se dit, je peux ou ne pas le faire. Personne ne me fera rien. Donc, il y a justement ces trois couacs qui font que, justement, l'application, que les femmes ne ressentent pas les avancées comme telles.
Dans les faits. Et quand on parle aujourd'hui de l'évolution des droits des femmes en RDC, par où il faut commencer? Quelle était la situation de la femme congolaise il y a quelques décennies, par exemple, sur le plan juridique?
Nous venons de très loin, madame, de très très loin. Il y a plusieurs réformes qui ont été mises en place. Déjà en 2006, il y avait la Constitution. Et il y a plusieurs choses qui ont été dites en faveur des femmes. Entre autres, la parité. On a demandé minimum 30% des femmes dans les institutions. Et ça, c'est quelque chose de très louable. On a même encadré le projet de dot, Voilà. De dot, lorsque tu vas épouser une femme, ça, pour que ça ne soit pas du marchandage, que tu ne sois pas là pour vendre ta fille ou... voilà. Il y a, au-delà de ça, il y a également le fait que, bon, on attribue le nom à l'enfant de commun accord entre la maman et le papa. Il y a un certain nombre de choses, en fait, qui ont été vraiment mises en place pour la cause de la femme. Mais encore une fois... Le problème reste l'application.
Ouais, 2006, par exemple, la Constitution a adopté, avait consacré l'égalité entre hommes et femmes et le principe de parité.
Tout à fait.
Et est-ce qu'on observe cette avancée sur terrain?
C'est encore une fois très timide. Hein. Mm-hmm. Vous savez, je ne veux pas non plus.
Mais on tend quand même vers le 30%.
On tend. C'est vrai que dans le gouvernement, on est maintenant à 32 ou à 33, je crois, pour cent. C'est très bien. On a même une première ministre femme que je salue, Madame Judith Suminwa, en tout cas. C'est des grandes avancées. Hein. Moi, je l'ai toujours appelée la nôtre, parce qu'en fait, elle rend le rêve possible. Il y a très longtemps, on n'aurait pas pu imaginer avoir une femme à la tête du gouvernement. Ça va faire plus de 60 ans que ce sont juste les hommes qui gèrent le pays. Mais là, c'est une femme. Et je pense que toutes les femmes devraient la soutenir, ne serait-ce que pour ça, pour que ça continue, pour que ça reste pérenne. Donc, voilà.
Et vous parliez tantôt de la lutte contre les violences sexuelles. Toujours en 2026, la RDC a adopté les lois importantes pour lutter contre ces violences. Sur le terrain, vous dites que ça ne change pas. Et sur le plan juridique, est-ce que cela a changé quelque chose?
Le problème aussi par rapport aux violences, c'est que les femmes ne dénoncent pas. Vous savez, quand vous êtes malade, il faut aller voir un médecin pour qu'on vous soigne. Mais lorsque vous êtes malade, que vous gardez votre maladie pour vous-même, on ne peut rien pour vous. Donc, les femmes ne dénoncent pas. Aujourd'hui, il y a le numéro 122, qui est un numéro gratuit sur tous les réseaux de communication. Lorsque vous avez un problème de violence, un problème de harcèlement, parce que il n'y a pas que les violences de viol ou les violences conjugales, mais il y a beaucoup d'autres violences basées sur le genre dont les femmes sont victimes. Donc, quel que soit le type de violence que vous vivez, vous devez appeler.
On parle même de violences économiques.
Ah oui, même administratives.
Financières.
Tout à fait. Tout à fait. Même administratives, c'est-à-dire que vous allez en Europe, j'ai souvent vu ça avec les chefs d'orchestre. Quand ils vont en Europe, ils récupèrent les passeports des danseuses. C'est une forme de violence, mais elles ne le savent pas, malheureusement. Et c'est des choses qu'il faut dénoncer. Vous ne pouvez pas vous taire face à l'injustice. Hein, parce que même si ce n'est pas vous-même qui vivez ça, les autres peuvent le vivre indirectement. Vous avez le devoir de dénoncer, même quand c'est quelqu'un qui est proche de vous ou même une personne qui n'est pas proche de vous mais qui vit des violences. Donc il y a le numéro 122 qui est disponible pour ça.
Et qu'est-ce qui peut être à la base de cette attitude des femmes? Est-ce que c'est la culture, les traditions, les mentalités qui influencent le respect même des droits des femmes?
C'est tout ça. C'est vraiment ce cocktail-là. Parce qu'il y a déjà le fait, si je dois parler de l'éducation, il y a déjà le fait qu'on nous éduque pour servir. Ah oui, on nous éduque pour servir, on nous prépare à la
quand
maternité.
Quand vous dites nous, ce sont les femmes.
Les femmes, oui, les femmes. On nous prépare à la maternité, on nous achète des poupées, on nous achète des dinettes pour nous préparer au foyer. Alors qu'en fait, les hommes, c'est le contraire.
À servir les autres.
Exactement. Les garçons, c'est des ballons, c'est des vélos, c'est des jeux.
C'est la détente. Déjà.
Exactement. Et ça les pousse aussi à prendre des risques. Ça les pousse à prendre des risques. Aujourd'hui, beaucoup de gens disent non, mais les femmes, elles sont là, elles ont du mal. Par exemple, les femmes qui sont au Parlement, elles ont du mal à prendre la parole, elles ont honte. Mais c'est tout ça là. C'est tout ça qui fait qu'aujourd'hui, la femme se met en arrière-plan.
C'est l'influence de la culture.
Exactement.
Traditions.
Tout à fait. Il y a les dictats, il y a les pesanteurs sociales. C'est tout ce cocktail-là qui fait qu'aujourd'hui, en fait, les femmes vivent tout ça. Elles pensent qu'elles méritent ce qu'elles vivent, alors que non. Elles ne comprennent pas qu'elles vivent dans un système biaisé. Et ça, c'est bien dommage. Ce que nous faisons, justement, en tant qu'association, en tant que société civile, c'est que nous faisons de la sensibilisation. Il faut sensibiliser, il ne faut pas s'arrêter. Et il faut que les décideurs nous aident à bien faire notre travail. De façon, je pourrais parler de la logistique, je pourrais parler même des moyens financiers, parce qu'aujourd'hui, pour être aligné au ministère du genre ou ailleurs, c'est un combat de titans pour obtenir des subventions. Donc, il y a tout ça. Et encore une fois, j'aimerais marteler sur le fait qu'il y a un numéro vert aujourd'hui. C'est très important de l'utiliser. Vous avez une prise en charge qui vient juste après votre appel. C'est-à-dire que vous avez des gens qui vous écoutent, des gens qui ne vous jugeront pas, qui vous écouteront par rapport à ce que vous vivez et qui vous mettront en confiance. Et c'est très, très important que les femmes comprennent que lorsque on ne vit pas dans un environnement sain, on ne peut pas non plus s'épanouir. On ne peut pas s'épanouir. La femme a la même responsabilité que l'homme, celle d'apporter sa pierre à l'édifice, à la construction de la RDC, d'une RDC prospère. Et c'est très important qu'elle prenne cette mission-là à cœur. Voilà.
Et parmi les réformes dont on parlait, il y a aussi la réforme du code de la famille de 2016. Est-ce qu'on peut en parler?
Ah oui, celui-là, c'est vraiment, je peux dire, c'est ma préférée.
Ah oui?
Ah oui, oui, oui. Parce que vous n'imaginez même pas le nombre de femmes qui ont été libérées grâce à cela.
Mais quelles étaient les principales discriminations que cette réforme voulait corriger?
C'était déjà l'autorisation maritale qu'on a bannie, qui était portée par Marie-Ange Lucana, que je salue, Madame Marie-Ange Lucana. Cette réforme représente en fait un brin d'espoir pour les femmes. Aujourd'hui, il y a des familles qui envoient leurs enfants à l'école. Malheureusement, tu envoies ta fille à l'école pour qu'après, tu bénéficies quand même de ce qu'elle aura appris, qu'elle puisse trouver un bon travail, qu'elle puisse se mettre à l'aise dans la vie. Mais si ta fille épouse un homme qui refuse qu'elle travaille, c'est un rêve qui est éteint. C'est un rêve qui s'éteint. Au-delà du fait que c'est un rêve qui s'éteint, il y a également la responsabilité citoyenne dont je viens de parler tout à l'heure. Et j'aimerais aujourd'hui insister sur quelque chose de très important. Et là, je m'adresse aux hommes. Les femmes que vous épousez ne vous appartiennent pas. Elles sont d'abord des citoyennes de la République démocratique du Congo. Donc, en tant que telles, elles ont des devoirs envers leur République, envers leur nation. Et le fait d'interdire à une femme de travailler, vous entravez en fait le développement du pays. Tout le monde doit mettre la main à la pâte pour que le pays se développe. Vous n'avez pas le droit d'interdire à votre femme de travailler, même si elle vous appartient. Pourquoi je dis que la femme ne vous appartient pas? Elle appartient d'abord à son pays, à sa nation. Parce qu'aujourd'hui, si vous battez votre femme à mort, on vous mettra en prison. C'est pour vous dire que cette femme-là que vous épousez n'est pas votre propriété privée. Elle est d'abord citoyenne de son pays.
C'est un être à part entière.
Absolument.
Et avant cette réforme-là, donc, comme vous le dites, les femmes devaient obtenir l'autorisation maritale pour travailler ou pour exercer certaines activités.
Oui, avant, il fallait demander l'autorisation. C'est vrai qu'aujourd'hui, très peu de femmes aussi arrivent à s'imposer dans ce sens-là, parce qu'elles préfèrent laisser... mettre plutôt le mariage en avant-plan. Elle préfère la paix, hein, cultiver la paix plutôt que les discordes dans le foyer. Mais moi, j'aimerais dire à ces femmes-là...
Donc, au-delà de cette réforme, il y a des arrangements entre...
Tout à fait.
Dans le couple.
Il faut, parce qu'en fait, le couple, le dialogue, c'est la base. Tu ne vas pas non plus te réveiller un matin, te dire, voilà, je commence à travailler sans en avoir parlé à ton conjoint. Donc, le minimum, c'est d'échanger et de se mettre d'accord. Maintenant, si cet homme-là insiste et refuse pour que vous puissiez travailler, mais que vous voulez travailler, vous avez le droit d'aller travailler. Ah oui, il faut qu'elle comprenne ça. Vous avez le droit d'aller travailler. Mais évidemment, avant ça, il faut négocier, il faut parler, il faut dialoguer avec votre conjoint. Voilà.
Et je rappelle notre numéro de téléphone pour ceux qui veulent, ou celles qui veulent participer à cette émission, 085 42 11 547, 085 42 11 547, ou nous laisser un commentaire sur notre page Facebook, Okapi Service. À vous suivre, Madame Caroline Nourapindi, les mentalités ont du mal à suivre l'évolution des réformes par rapport à la situation de la femme en RDC.
Oui, il y a un problème de mentalité aussi. Malheureusement, c'est un travail de longue haleine. Voilà pourquoi moi, je considère notre génération à nous, hein, et celle qui vient, et celle de nos enfants, de nos filles, de nos fils. Je compte sur cette génération-là, parce que nos mamans, elles ont eu un système de pensée dirigé par des stéréotypes, par des dictats. Et elles ont eu du mal à se détacher plutôt de ça. Et la plus belle femme du monde ne donne que ce qu'elle a. Aujourd'hui, les femmes sont confrontées à deux grands problèmes. Le premier problème, c'est le phénomène de plafond de verre. Il faut briser le plafond de verre. Il faut que la femme puisse trouver sa place, qu'elle puisse en fait s'affirmer et mettre en avant ses atouts, pouvoir justement les utiliser pour évoluer. Malheureusement, c'est un travail que la femme doit faire seule. Ça, c'est un travail que la femme doit faire seule. Personne ne viendra l'aider pour ça. Mmh. Donc, il faut qu'elle prenne conscience du fait que c'est elle-même qui doit se sauver. Personne ne viendra te sauver. Personne ne viendra te dire qu'il faut que tu te lèves, qu'il faut que
Mais on disait tantôt, il y a ce poids de la culture et des traditions qui pèsent quand même sur la femme.
Oui, mais vous savez, s'il y a eu des femmes qui ont réussi à se sortir de ces situations-là, c'est que n'importe quelle autre femme est capable de le faire. Il faut déjà le décider. Et lorsque tu le décides, que c'est tellement difficile, tu peux, à ce moment-là, demander de l'aide. Et c'est là qu'intervient maintenant la notion de mentorat. C'est très important d'avoir des mentors, d'avoir des modèles. Et là, j'aimerais parler du deuxième phénomène, qui est le phénomène de la reine des abeilles. Par contre, ce phénomène-là, j'aimerais le fustiger auprès des femmes. Parce que les femmes, certaines, quand elles sont déjà arrivées au sommet, elles veulent que les autres gravitent autour. Mmh. Elles ne veulent pas hisser les autres femmes au même niveau qu'elles. Et c'est un phénomène qui dessert la cause. Il faut que les femmes comprennent que nous devons nous serrer les coudes. Nous devons aider les plus faibles à monter. Et non seulement ça, nous devons également préparer la succession. Il faut qu'on puisse préparer les personnes qui viendront après nous. Hein, Madame Jocelyne n'est pas éternelle. Voilà, c'est même la notion d'avoir des stagiaires, d'avoir justement pour préparer la relève. C'est très important. Et les femmes doivent avoir ça en tête. Elles ne doivent jamais oublier qu'elles ne sont pas éternelles. C'est vrai que c'est en heure de gloire, mais encore. Donc il faut vraiment préparer la relève.
On y reviendra, oui. Madame Caroline Nourapindi. Le temps pour nous d'accorder aussi la parole aux hommes. C'est vrai que c'est la journée, le mois de la femme, mais il y a quand même des hommes genrés qui aimeraient bien participer au débat. Blaise Atoubou est en ligne depuis Kisangani. Bonjour Blaise Atoubou.
Bonjour, madame, je suis de bonne fête. Bonne fête également à l'invité du jour.
Merci.
Allô?
Oui, merci. Allez-y.
Voilà, je suis de bonne fête. Oui, merci beaucoup. La réforme du code de la famille dans notre pays et l'adoption des lois contre les violences constituent une avancée importante pour la protection des droits, surtout ceux des femmes et des enfants. Néanmoins, l'efficacité de ce texte dépend de leur application qui pose des problèmes et la sensibilisation de la population. Sa justice efficace et sans changement de mentalité, ces réformes risquent de rester symboliques chez nous. Je vais demander la première question à Madame l'invité. En commençant par l'année passée, le 8 mars 2025 au 8 mars 2028, quels sont les cas qu'elle a répertoriés pour les cas de violence? Voilà. La deuxième question, la réforme du code de la famille a-t-elle réellement amélioré la situation des femmes dans notre pays? La troisième question, malgré les sensibilisations, pourquoi les femmes, pourquoi les violences familiales et sexuelles persistent système. Je me limite à ce niveau-là, s'il vous plaît.
Merci beaucoup, Blaise Atoubou, de nous avoir appelé depuis Kisangani. On va prendre Platini Mbombo, qui est à Mbandaka. Bonjour, Platini.
Bonjour, bonjour, madame Jocelyne Moussa Ponde, la femme battante. Je vous dis bonne fête du mois de la femme.
Merci.
Et aussi, je salue aussi la dame qui est au studio, la dame qui parle le français plus que même les Françaises lui-même.
Wow. Madame Caroline Pindinoura.
Bonne fête, bon pouvoir, la bonne fête, le 8 mars, c'est votre mois, vraiment avec plaisir, et vous êtes l'honneur pour la République du Congo.
Merci.
Merci beaucoup, madame Jocelyne Moussa Ponde. Je vous suis avec beaucoup d'attention et aussi avec beaucoup d'intérêt, car ce que vous dites, ce que vous dites et votre voix aussi rassemble l'intelligence de la femme congolaise. Ce que je voudrais vous dire, c'est ceci. Le 8 mars, célébré chaque année à République démocratique du Congo, je peux vous dire, hein, dans le monde entier. Je salue aussi les femmes de l'Équateur, en commençant par la ville de Mbandaka. Mais je voudrais savoir pourquoi la femme lui-même ne se développe pas. Je vous prends exemple de deux catégories. Première catégorie sur le plan politique. Et aujourd'hui, même dans le législatif qui vient de passer, vous allez comprendre qu'il y a beaucoup de femmes candidates députées nationales, provinciales, municipales, candidates gouverneurs. À la fin du compte, lui-même, la femme n'arrive pas à concrétiser ce que lui-même pense. Je peux vous dire, dans les campagnes électorales, sur le terrain, etc., etc. Et souvent, dans les services publics de l'État, vous allez comprendre que la femme toujours revient toujours à recourir à un homme. Parce qu'il y a un slogan au dit, tout ce que l'homme fait, femme aussi le fait aussi. Et tout ce que la femme fait, il y a aussi l'homme qui peut aussi le faire. Il y a aussi des femmes pilotes, il y a des femmes taximènes aussi, bien d'avis des managers, des femmes taximènes, il y a aussi des femmes qui font tout, tout comme l'homme fait. Alors, moi, je voudrais poser vous la question. Pourquoi la femme lui-même ne sait pas que, ensemble avec lui, peut se développer en tout ce que l'homme peut se faire? Parce qu'aujourd'hui, il y a un slogan, on dit, quand la femme s'engage, tout bouge. Mais quand la femme s'engage, tout bouge où? À la maison, dans les foyers, ou bien partout elle se trouve. Maintenant, ce que moi je veux poser comme la question à l'invité qui est avec vous, pourquoi aujourd'hui la femme lui-même se laisse toujours derrière les hommes? Pourquoi? Pourquoi?
Merci.
Et c'est un mois dédié aux femmes.
Merci.
Et la deuxième question, si l'invité peut nous dire, parce que les femmes, ça aussi je pouvais être occasion pour saluer la première ministre, c'est depuis l'histoire de la République démocratique du Congo, avoir une femme battante, Maman Soumino, que je le salue à passant, elle fait beaucoup de choses en tant que femme. La deuxième question que je vais vous poser encore, dans le service public de l'État, au Parlement, le Sénat, etc., tout ça, les femmes sont toujours minoritaires. Ça vient d'où, madame? Pourquoi c'est chaque législature, on voit toujours la minorité des femmes au sein du bureau du Sénat, au sein du gouvernement, au sein du bureau de l'Assemblée nationale? Je voudrais avoir les questions pour aider aussi nos mamans qui nous suivent à travers la ville de Mbandaka, pourquoi pas à travers la province de l'Équateur.
Merci beaucoup, Platini Mbombo, de nous avoir appelé depuis Mbandaka. Madame Caroline Norapindi, êtes-vous d'accord avec Platini, hein, qui dit que les femmes ne se développent pas elles-mêmes, elles restent derrière les hommes? Pourquoi cette attitude, selon Platini Mbombo?
Je pense que j'en ai parlé en amont, hein. Pardon, excusez-moi, au début, j'ai dit que la femme, en fait, elle était formatée comme ça. Elle a été formée pour ça. C'est-à-dire que la femme a été élevée pour servir les autres, pas pour se mettre en avant. D'ailleurs, il faut comprendre que la femme, elle a eu accès à certains services en retard. Déjà, même l'école. Les femmes ont commencé à aller à l'école plus tard que les hommes. Bon, tu as dans la maison des filles et des garçons. Tu as tendance, j'ai vécu ça avec un de mes peintres, parce que je suis architecte en fait de formation. J'ai vécu ça avec un de mes peintres qui me dit, non mais il faut que Je vais envoyer plutôt, j'ai 4 filles et 1 garçon, je vais garder l'argent pour envoyer le garçon à l'école, pour que lui au moins il ira à l'université, et les filles elles vont s'arrêter aux humanités, parce qu'il y aura un homme qui va les épouser.
De toutes les façons, elles vont se marier.
Vous imaginez un peu. Donc il y a les mentalités. C'est-à-dire que les femmes ont accédé à certains privilèges en retard. Il faut que les gens comprennent ça. C'est ça qui explique aussi une certaine discrimination positive. Lorsque vous voulez postuler, surtout dans les organisations de Nations, les organisations de Nations Unies, ils vous disent que les candidatures des femmes sont encouragées. Et d'ailleurs, elles sont traitées en priorité. Pourquoi? Justement, c'est à cause de ça. On est en train de mettre en place des mécanismes pour sortir cette femme de ce mutisme-là. Mais il faut que les hommes comprennent qu'on ne pourra pas sortir la femme du mutisme sans eux. C'est un travail qu'on doit faire de concert. Les hommes doivent arrêter de penser que demander l'égalité des sexes, c'est les castrer. C'est vouloir les castrer, c'est vouloir les remplacer. On n'a pas besoin de ça. Moi, je suis quelqu'un de très ancré dans l'identité africaine. Et en Afrique, l'homme représente l'autorité et la femme représente le pouvoir. Ensemble, ils sont complémentaires. On n'a pas besoin que l'un soit au-dessus de l'autre. Je sors, mais vraiment du cadre religieux. Là, je sors du cadre, parce que je sais qu'on va me ramener, non, mais on a dit l'homme,
mais c'est ça, le chef, aussi machin, tout ça. Le poids de
c'est tout
de
ça là qui nous empêche justement d'évoluer. C'est tout ça qui nous empêche d'évoluer. Parce que quand je vous parle de la société ancestrale, c'est très intéressant ce que je veux vous dire. Dans la société ancestrale, les femmes avaient occupé une place de choix. 80% des populations africaines étaient matriarcales, c'est-à-dire qu'on héritait du trône par le lait. C'est très important que les hommes, les gens comprennent aujourd'hui que c'est
reines,
que exactement Dinga, il y a les Agblapoku, il y a les Amazones de Dahomey, je peux en citer autant. Qu'est-ce qui nous a retardés? C'est l'avènement du blanc. C'est la colonisation qui nous a ramenés en arrière. Pourquoi je le dis? Lorsque vous observez l'histoire, vous lisez l'histoire, vous allez vous rendre compte que c'était à l'époque, à la même époque où nous avions des reines, chez eux là-bas, ils faisaient des chasses aux sorcières. Il suffisait qu'une femme sache lire pour qu'on l'appelle sorcière, qu'on la brûle. Il suffisait qu'une femme sache soigner avec des plantes pour qu'on l'appelle sorcière, qu'on la brûle. C'est eux qui nous ont ramené ça ici. C'est eux qui nous ont ramené le patriarcat. C'est eux qui ont fait en sorte que la femme soit reléguée au second plan. Dans notre société ancestrale, ce n'était pas le cas. C'est vrai qu'il y avait des sociétés ou de tribus où il y avait le patriarcat qui régnait, comme les Luba, tout ça. Mais la majorité des peuples africains étaient matriarcales. La femme avait sa place. Je vais donner l'exemple des Tshokwe, je crois. Je crois que le prince Kandala ne va pas me contredire. Chez eux, lorsqu'il fallait prendre des décisions, les hommes pouvaient se réunir entre eux. À la fin, ils revenaient chez la femme. C'est la femme qui devait trancher.
Qui avait le dernier mot.
Exactement. Donc, comme pour vous dire que les hommes et les femmes doivent travailler en synergie. On n'a pas besoin d'écraser les autres. Les femmes ne doivent pas non plus vouloir imposer. C'est vrai, hein. C'est vrai parce que quand vous observez un esclave, par exemple, qui a été assujetti toute sa vie, lorsqu'il veut se libérer, il devient très agressif. Et moi, je peux comprendre les femmes qui deviennent agressives.
Elles se rebellent.
Il faut vraiment essayer de diluer tout ça. Et les hommes doivent nous aider parce que la lutte pour l'égalité des sexes, c'est aussi pour eux qu'on le fait. Aujourd'hui, les hommes portent aussi un poids énorme. Voilà pourquoi on parle de masculinité positive aujourd'hui. Parce qu'on a besoin d'avoir des hommes qui ont de l'empathie. Un homme qui bat sa femme, c'est un homme qui a perdu son côté humanitaire. Il n'est pas humaniste plutôt. Il n'a plus d'empathie. Parce que tu ne voudras pas faire du mal à une personne que tu aimes, à une personne que tu considères.
À ton semblable.
Donc, on a besoin que ces hommes-là se réconcilient avec leur côté sensible. Aujourd'hui, quand on voit un homme pleurer, on se moque de lui, alors que c'est tout à fait normal. C'est pas pour rien qu'on a mis des glandes lacrymales. Ouais. C'est-à-dire que quand tu es en détresse, tu peux pleurer. Mais on va te dire, moi, dans mon bal, il y a les lacatis.
C'est la femme qui pleure.
C'est la femme qui pleure, malheureusement.
Il y a une deuxième question de Platini Mbombo sur la minorité des femmes dans les institutions. Elles restaient quand même minoritaires malgré tout.
Mais là, c'est le système. Là, c'est vraiment le système. Parce que quand je prends l'exemple des pays comme le Sénégal, qui sont arrivés à imposer le 50% des femmes au Parlement et dans toutes les institutions, qu'est-ce qu'ils ont de plus que nous? On a un problème, c'est le système. Les hommes enrôlent les femmes dans les partis politiques pour faire le djalélo. Pas pour leur donner des postes, des décisions ou des postes. Non, c'est pour faire le djalélo.
C'est pour leur visibilité.
Exactement.
En fait.
Et cette fois-là, quand on a dit qu'il fallait qu'il y ait au moins 50% des femmes candidates pour que vous soyez éligibles, je crois, en 2023, c'est là qu'ils ont commencé à enrôler les femmes. Et tout. Mais combien sont passées? Très peu sont passées. C'est-à-dire qu'il y a un système qui a été mis en place. Aujourd'hui, si on demande à un homme de choisir une femme compétente, il va choisir la moins compétente. Parce qu'il se sent un peu menacé par les femmes. Lorsque vous lisez les statistiques, les entreprises qui sont gérées par les femmes ont un meilleur rendement que les entreprises gérées par les hommes. Aujourd'hui, la femme, si elle prend conscience de ce qu'elle est, de sa valeur, elle peut faire beaucoup. Et le système a été mis en place justement à cause de ça. Et moi, j'aimerais même parler de la religion. C'est-à-dire qu'on savait que la femme était une force. Et il fallait absolument l'anéantir. Il fallait la mettre en bas. Parce que si aujourd'hui la femme se lève, et monsieur l'a dit, non, quand une femme se lève, c'est toute la nation qui se lève.
Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque aussi, hein, comme vous le dites, que la femme aussi écrase l'homme? C'est ce que l'homme évite aussi.
Non, on n'a pas besoin de ça, justement. Je ne suis pas en train de faire l'apologie de la tyrannie. Non, je ne suis pas en train de faire l'apologie de la... Non. Je veux qu'on arrive à un point où, à compétences égales, salaire égal, les opportunités doivent être pareilles pour les hommes que pour les femmes. Et je vais donner l'exemple de l'entreprise où moi je travaille actuellement. Il y a 9 directions. Et dans les 9 directions, il n'y a qu'une seule femme directrice. Alors je me suis posé la question.
Est-ce qu'elles n'ont pas postulé, les femmes?
Est-ce qu'il n'y a pas des femmes compétentes? Je ne crois pas.
Peut-être qu'elles n'ont pas postulé.
Non, ce n'était même pas une question de postuler ou comment. C'était vraiment une question. Bon, vous savez, il y a des fois on met en place des systèmes, bon, qui font que les choses se passent d'une certaine manière. Et c'est ça qu'on n'aimerait pas. Aujourd'hui, le chef de l'État qui est champion de la masculinité positive a compris ça. Voilà pourquoi il a pris une femme pour la mettre à la tête du gouvernement. Et ça a influencé aussi le fait qu'il y ait beaucoup de femmes, beaucoup d'autres femmes qui se croient capables, qui ne se pensaient pas capables hier de remplir certaines fonctions, qui se donnent aujourd'hui les moyens de le faire. Donc je pense que c'est un problème, c'est un faux problème. On a besoin de travailler en synergie. On n'a pas besoin d'être en confrontation.
Merci Madame Nora. Oui. On va répondre à Blaise à Toubou aussi, hein, qui avait posé sa question. Mais prenons d'abord Gaston Gandou qui nous appelle de Kinshasa. Bonjour.
Bonjour Madame.
Allez-y.
Je savais si
oui.
Notre invité.
Oui, bonjour.
D'accord. Bon, Madame. Vous n'ignorez pas comme moi qu'aujourd'hui, disons que nous sommes pendant les mois de la femme. Et j'espère que parmi les auditeurs qui suivent cette grande radio, il y a des femmes, hein, plusieurs femmes même, j'imagine.
Bien sûr que oui.
Vous constatez que nous allons finir l'émission, on n'aura qu'une seule intervenante femme qui est là, les autres ne vont pas. Ça prouve. Ça prouve en suffisance que les femmes sont dans d'autres choses, ne sont pas dans des choses sérieuses. Ça, c'est un aspect. Et puis, ma question, c'est pourquoi les dispositions, on vient de faire allusion aux innovations qui ont été apportées depuis la nuit des temps concernant les droits des femmes, mais qui ne s'adaptent pas à nos réalités, qui ne s'adaptent pas à nos comportements. Hein, les textes prévoient ceci, mais dans la pratique, on vit ceci. Alors, je voulais un peu demander, qu'est-ce qui fait que, parce que dans d'autres cas, sans vous mentir, moi, je suis juriste, dans d'autres cas, les faits précèdent les droits. Si on parle d'un comportement quelconque, on érige les règles du droit. Mais chez nous, c'est les droits qui précèdent les faits. Donc, on impose les règles des droits sur un comportement que les gens ne vont pas appliquer. Je pense que c'est fou. Je voulais un peu que Madame puisse nous expliquer un peu pourquoi ça ne s'adapte pas à nos réalités. Et deuxièmement, que faire pour que ces dispositions puissent s'adapter à nos réalités? Et si ce n'est pas le cas, que ça ne s'adaptera toujours pas, qu'est-ce que nous pouvons faire pour avoir notre propre droit, hein, nos propres dispositions qui sont conformes à nos comportements? Par exemple, quand on dit que les femmes, en RDC, les femmes ne prennent pas la parole en public, qu'on érige ça à une règle, une distinction juridique, parce que c'est un constat réel, que les femmes sont plus dans d'autres choses. Je ne sais pas quelles sont ces choses-là, mais je ne voulais pas entrer. Mais je sais aussi une chose, qu'il y a la dot. Je voulais aussi que madame puisse un peu nous éclairer par rapport à la dot. J'ai pu constater que la dot est pour beaucoup dans la chosification de la femme. Donc la dot, c'est comme si les hommes aujourd'hui font leurs économies. Ils se battent, ils font leurs épargnes pour acheter une femme. Donc, vous savez, quand on achète, là, ça devient votre propriété. Hein, vous pouvez crier sur ça. Ça devient votre propriété. Vous pouvez en faire surtout la famille. La famille qui va aussi tard, vous pouvez faire tout ce qu'ils peuvent vouloir sur la femme. Mais je sais qu'il y a la Constitution de 2006, à son article 14, qui prévoit la parité. Il y a la loi organique de 2015 sur la parité. Nous avons aussi les réformes électorales de 2023, hein, sur les listes. Donc tout cela a été prévu, mais qui souffre d'explication. Aujourd'hui, on a moins de 15% d'enfants, des femmes parlementaires. Tout cela, ça démontre que ce sont des règles qui s'adaptent pas à nos réalités. Voilà un peu ce que j'avais à dire.
Merci.
Comme ça, madame peut nous éclairer un peu.
Merci beaucoup, maître Gaston Gandou. Vous nous appelez depuis Kinshasa. On prend un autre auditeur en ligne, Kachai de Kanyoka, qui est dans le Kasaï central. Bonjour, Kachai.
Bonjour, madame Jocelyne Moussaou-Pondé, et bonjour à madame Caroline.
Bonjour
à toutes les femmes de la République démocratique du Congo.
Bonjour
à ma maman, Régine Ntumba. Merci beaucoup.
Merci. Quelle est votre contribution à cette émission et quelles sont vos questions?
Merci beaucoup, madame Jocelyne, de la parole nous accorder. Madame Jocelyne, s'il était demandé aux hommes aujourd'hui de devenir aussi des femmes, j'allais postuler à cause de la motivation de madame Caroline sur la radio au Capi. Parce que j'ai compris que les femmes incarnent des atouts majeurs tendant à développer la contrée, le pays, le village, la ville. Parce qu'elles ont des idées majeures, positives, dans ce qu'elles font. Félicitations, madame Caroline.
Merci beaucoup,
alors, madame Jocelyne, je m'en vais vous dire que c'est vrai, actuellement, si hier, la femme africaine, la femme congolaise, la femme kassayenne, était placée sous le joug des coutumes avilissantes, ne pouvant pas lui permettre de prendre parole, d'avoir une place au même titre que l'homme, mais actuellement, les tendances ont changé. Nous saluons le leadership du président de la République, Félix Antoine Tshilombo, d'avoir porté à la primature de notre pays une femme, et une femme capable. Elle s'assume. Nous sentons ses actions sur terrain. Elle n'est pas seule. Madame Jocelyne, vous êtes témoin de la diplomatie agissante de Madame Thérèse Kayikwamba, ministre en charge des affaires étrangères. Vous avez vu, c'est parce qu'une femme est là que les Blancs sont en train de fléchir, que Kagame est en train de pleurer, que le système international est en train de changer. En rapport avec la situation de l'Est du pays en faveur de la RDC. Parce que nous avons une femme. Et elle n'est pas seule dans les gouvernements soumis. Il y a autant de femmes qui sont en train de mener des activités à un impact visible. Et félicitations à ces femmes. Madame Jocelyne, il y a un problème majeur qui se pose dans nos communautés. Madame Caroline a parlé du travail de la femme. Mais actuellement, là, même maintenant, Madame Jocelyne, il y a des femmes qui pleurent pour travailler, alors qu'elles ont des capacités, mais leur mari ne leur donne pas la chance. Nous sommes en train de gérer un cas ici au village. Je vous appelle à partir du village Kanyuka, Madame Jocelyne. Mmh. Où il y a une femme qui est en train de pleurer chaque jour ici. Pourquoi? Parce que son mari lui dit que ton travail là, c'est un travail qui t'amène à téléconduire. Pour l'homme, lorsque la femme se présente au service, elle embrasse les collègues de service, les hommes. On se donne des joues. Cela, c'est un acte odieux qui ne peut pas être toléré, qui ne peut pas être supporté par un autre homme. Nous avons essayé de parler avec cet homme-là pour lui dire que si ta femme travaille ici, elle a salué quelqu'un en lui donnant un baiser par la joue. Mais qu'en est-il de soumis, moi, Judith Sourd? Qui est embrassé par beaucoup de femmes. Qu'en est-il de Jocelyne Moussaou Pondé, qui embrasse les collègues de service, même si elle est mariée? Comment cela peut être transformé en un autre langage, peut-être d'adultère? Vous voyez un peu la bassesse d'esprit qu'incarne certains hommes aujourd'hui qui n'ont pas encore compris que le monde est en train de changer. Il n'y a pas le sexe partout. Alors, un autre problème, le deuxième, Madame Jocelyne.
On doit laisser le temps à Madame Caroline de répondre et de prendre aussi à d'autres auditeurs qui sont en ligne, qui sont en attente, oui. Monsieur Kachay.
Je finis. C'est par rapport au projet dans le ménage. Beaucoup de projets, lorsqu'on veut les entreprendre, ne sont parfois communiquer aux femmes mariées par leur mari. Il y a des projets déjà réalisés peut-être qui sont alors communiqués et les femmes sont toujours informées après. Et quand il y a concertation parfois, la femme se rallie toujours à l'avis de l'homme, comme si c'est cet avis-là qui pesait. Alors, qu'est-ce que Madame Caroline pourrait dire à ces femmes-là qui souffrent dans leur intérieur? Avec les idées qu'elles ont pour les développer, mais elles sont étouffées par les hommes, parfois les hommes qui ont étudié, mais qui ne sont pas bien instruits, qui ne comprennent pas comment le monde est en train d'évoluer actuellement. Comment, quel est le conseil que Madame Caroline pourrait donner, non seulement aux hommes-là, qui ne comprennent pas actuellement qu'est-ce qu'il y a par rapport à la vie, parce que dans la vie du couple, il n'y a pas encore de bouche à nourrir. Plutôt, nous avons des bouches à contribution. La femme n'est plus encore la bouche à nourrir.
Merci Kachay de Kanyoka. Madame Caroline Norapindi vous a suivi. Madame Caroline, que répondez-vous à notre auditeur? On va pouvoir aussi répondre aux autres, Maître Gaston et notamment et Blaise Atoubou, avant de prendre Gentil Basukwamba qui est en ligne depuis Kananga.
Bon, pourquoi nos lois ne sont pas adaptées selon monsieur, j'ai oublié son nom, celui qui a parlé avant monsieur qui vient de parler tout à l'heure.
Monsieur Gaston, oui. Gaston, Maître Gaston Ngandou de Kinshasa, oui, oui. Qui vous dit savez, que oui. Les lois ne sont pas adaptées à nos réalités.
Oui, il y a un problème qui perdure, qui dure depuis des décennies, depuis des années, des siècles. Pourquoi, je le dis? Parce que nous avons copié le modèle occidental depuis leur arrivée en RDC. Le système démocratique, certaines lois d'ailleurs, sont copiées des lois des occidentaux. C'est quelque chose qui s'est déjà installé. Vous savez, c'est un peu comme si vous étiez en train de jouer à un jeu où vous devez imbriquer ou faire entrer un élément circulaire dans un trou carré. Est-ce que si vous faites entrer l'élément circulaire dans le trou carré, il y aura adéquation totale? Non, il y aura des vides. Pourquoi? Parce que, je vais parler de l'Afrique en général, l'Africain s'est éloigné de ce qui était, de son essence même. Quand vous observez la Chine, ou même l'Inde, tous ceux qui sont restés, ancrés dans leur identité, ont évolué. Malheureusement pour l'Afrique, l'Afrique a laissé entrer les Occidentaux. Les Occidentaux ont assujetti l'Afrique. Ils ont imposé leur manière de faire. Ils nous ont contaminé leur manière de faire. Et aujourd'hui, nous en payons les frais. Nous faisons avec. Et puisque nous faisons avec, je crois que ça répond à la question quand il dit pourquoi nos lois ne sont pas adaptées. Vous savez, c'est un peu comme je donnais un exemple en architecture. Quand je conçois une maison à Kinshasa, je vais prendre en compte certains paramètres climatiques, même culturels. Chez moi, je vais pas mettre, dans cette maison, je vais pas mettre une cuisine américaine, par exemple. Parce que chez nous, la cuisine doit être fermée. Je vais mettre une terrasse service, une terrasse à la cuisine. Parce que je sais qu'il faut un endroit où on devra piler le pondou. Oui. Vous savez, vous voyez? Donc, en fait, c'est ça. Il faut contextualiser nos lois par rapport à nos réalités. Voilà. Et c'est dommage parce que le Congolais, l'Africain, s'est éloigné de son identité intrinsèque, de son identité, de son essence profonde. Il faut vraiment que nous puissions nous réconcilier avec notre identité, que nous puissions... Et Mobutu avait bien compris ça. Mobutu avait bien compris quand il parlait de retour à l'authenticité. Et nous, il a été incompris. Mais aujourd'hui, moi, j'étais très jeune, moi, je comprends pourquoi il le disait. Parce que c'est en redevenant soi-même qu'on peut prétendre s'imposer et trouver sa place. Vous voyez? Mais comme on est très loin de ça, c'est les raisons pour lesquelles on est dans...
Maître Gaston Gando a parlé aussi de la dot.
Oui.
Bon, ça, c'est vraiment... Qui relègue à l'arrière-plan...
Vous savez, Madame Jocelyne, il y a un problème de... Ça, c'est la misère. Hein. C'est la misère. Le fait que, bon, aujourd'hui, on vend carrément les femmes. Je vais encore revenir à l'époque ancestrale. La dot, c'est symbolique. La dot, c'est symbolique. Tu n'es pas en train de vendre ta fille. Et c'est vrai ce qu'il dit. Ça donne justement l'opportunité à certains hommes de maltraiter leurs femmes, même si je ne veux pas justifier le comportement violent des hommes, mais c'est quelque chose qui contribue, qui alimente cela. Parce qu'un homme qui a autant souffert pour avoir les sous pour venir épouser une femme, parce qu'aujourd'hui il y en a même qui demandent des chaînettes en or, qui demandent
des télévisions,
des téléplasmas, qui demandent je ne sais quoi, des groupes électrogènes. Attendez, il faut vraiment que les gens comprennent que la dot, c'est quelque chose de symbolique. Normalement, on doit rester dans ce que la tradition demandait. Parce que ça, tout ça a une explication. Pourquoi on demande le sel? La maman te dira, bon, parce que durant tout ce temps-là, moi, j'ai élevé ma fille, je l'ai nourrie et j'ai utilisé mon sel. Tu me rembourses mon sel, le sel que j'ai mis dans la nourriture qui a contribué à ce que ta femme soit une femme aujourd'hui. Tout ça a une symbolique, ça a une explication. Mais quand tu demandes à un monsieur une chaînette en or, c'est quoi? On comprend tout de suite que c'est la cupidité, en fait. Voilà. Donc, le dernier monsieur, il a parlé de...
Il y a Blaise Atoubou qui voulait connaître des cas répertoriés.
Oui.
Depuis le 8 mars 2025 à hier,
oh 8 là mars là, 2026. Oh là là, Madame Jocelyne, vous n'imaginez même pas, on peut dépasser les centaines. On dépasse, et ça, c'est juste ici, dans la capitale. Parce que lorsqu'on entre à l'intérieur, justement, quand on entre à l'intérieur du pays, là, c'est plus les mariages précoces. En province, c'est les mariages précoces. C'est-à-dire qu'un vieux de 58 ans, de 60 ans, qui épouse une petite fille de 12 ans. Et qui l'empêche d'aller à l'école. Qui voit la petite fille, voit son destin comme ça, éteint. Et ça, ce sont vraiment les cas qu'on a répertoriés. Et ceux qu'on n'a pas répertoriés. Vous imaginez? Donc, en fait, le pays va très mal. Et voilà pourquoi je lance un appel à toute la population à prendre à cœur le problème de lutte contre les violences faites aux femmes. C'est très important. Vous savez, lorsque la maman, dans une maison, la maman est triste, c'est toute la maison qui est triste. Il faut vraiment que tout le monde s'implique, que tout le monde s'implique pour redonner le sourire et sa place, sa valeur à cette femme congolaise. C'est très important.
Et Blaise Atoubou voulait savoir si la réforme du code de la famille a amélioré les choses sur terrain.
Oui, hein, je l'ai dit au début, j'ai dit que ça avait amélioré, mais c'est vrai que c'est timide. C'est timide parce qu'on n'a pas sensibilisé assez. Ce n'est pas arrivé jusqu'au fin fond des villages, malheureusement. Mais ici, déjà, en République, à Kinshasa, on remarque quand même qu'il y a des avancées, il y a des femmes aujourd'hui. La preuve, hein, je vais encore revenir, le gouvernement, aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes dans le gouvernement. Aujourd'hui, ce que j'aimerais peut-être ajouter ou demander, c'est qu'il y ait des clauses dans les entreprises, par exemple, de l'État, dans les services de l'État, des clauses claires pour dire qu'il faut autant de femmes, autant de pourcentage de femmes pour les postes de décision. Vous voyez ? Il faut que ce soit dit, il faut que ce soit bien clair et que ce soit imposé. De cette façon, c'est pour ça que j'appelle ça la discrimination positive. De cette façon, on pourra alors vite évoluer. Mais s'il faut laisser les gens faire à leur guise, c'est un peu difficile. Donc, il faut que l'État nous aide aussi pour ça.
On va prendre en ligne Chanti Bassekwamba, qui nous appelle de Kananga, au Kasaï Central. Bonjour.
Oui, bonjour, madame Joseline Moussaou. Bonjour aussi à tout le monde qui me suit à ce moment. Bonjour aussi à madame, je ne sais pas le nom vraiment.
Madame Caroline Pindinora.
Bon, j'avais beaucoup de choses.
Voulez-vous être bref, oui, oui. Parce qu'on a d'autres auditeurs qui attendent.
Oui, je dois seulement poser quelques questions, s'il vous plaît. Mais j'avais beaucoup de choses. Hein. C'était vraiment un très beau sujet, vraiment.
Allez-y. Alors, avec les questions.
Ok. Nous célébrons chaque année la Journée internationale des droits des femmes, le 8 mars. Mais dans notre pays, la République démocratique du Congo, certaines personnes estiment que cette journée n'est pas toujours respectée comme elle devrait. Pourquoi, selon vous, cette journée ne semble-t-elle pas être pleinement respectée par tout le monde? Je pense que cette journée devrait être un moment spécial pour les femmes. Par exemple, on pourrait même envisager que ce soit une journée sans activité habituelle.
Gentil Bassekwamba, apparemment on a perdu. Non, il est là, mais la liaison est très mauvaise. Gentil.
Vous ne me suivez pas.
On a du mal à vous capter et on va prendre dans le bandundu Patti Maïmba. Chulembo, bonjour.
Bonjour madame Moussaou et bonjour à notre invité.
En 30 secondes, votre question s'il vous plaît, parce qu'on est à la fin de l'émission.
D'accord. Dès l'introduction, je dirais, je ne suis pas misogyne, hein, quelqu'un qui n'aime pas de femmes, mais... Vous pouvez seulement demander à notre invité, là, depuis que l'émission a commencé, moi je suis le dernier, combien de femmes ont-elles appelé? Et dans le monde, si on voulait comptabiliser, vous, les femmes, le nombre que vous êtes par rapport à nous, les hommes, qui sont nombreux, vous voyez que ça, c'est déjà un sérieux problème. Vous êtes nombreux plus que nous, vous avez quelqu'un qui travaille plus que nous, mais la manière dont vous nous avez toujours cogné, vous pouvez toujours demander. Madame, souvent, quand vous passez pour chercher vos droits, souvent, vous ne parlez pas de la méritocratie. Donc, apparemment, vous voulez les favoriser. Le fait que vous êtes femme, il faut qu'on vous donne telle chose. Il faut...
Merci beaucoup. Merci, Patti Maïmba, depuis le Bandundu. Madame Nora, comment vous réagissez au propos
oui,
de
je,
Monsieur
Patti?
Je
savais, je m'attendais à cette question-là. C'est la question qui revient souvent. Mais comment on ne peut pas vouloir la méritocratie? Bien sûr que si. On ne va pas mettre une femme qui n'est pas compétente à un poste important. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut mettre des femmes qui ne sont pas compétentes. Et de la même manière aussi, il ne faut pas mettre des hommes qui ne sont pas compétents. Parce que quand j'observe aujourd'hui le bilan depuis 60 ans, ce sont les hommes qui ont géré. Mais nous sommes dans une catastrophe incroyable. Donc là, qu'est-ce qu'on va conclure? Que ce sont les hommes qui sont à la tête du pouvoir, qui sont incompétents ou comment?
Est-ce que c'est le genre qui détermine tout ça ou c'est
justement ce n'est pas le genre qui détermine tout ça. Oui. J'ai toujours dit, si aujourd'hui le président ou les décideurs veulent trouver des femmes compétentes, ils vont trouver des femmes compétentes. C'est une question de volonté.
Merci beaucoup, Madame Nora Caroline Pindi, d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Dommage que les femmes n'aient pas appelé
elles sont sont en train intervenir. De cuisiner, elles sont au travail, elles sont occupées.
Merci à vous, hein, cher homme genré. Merci d'avoir participé à cette émission avec vos questions et vos contributions. Merci de rester à l'écoute de la fréquence de la paix. On se retrouve après le bulletin d'information.